Bonjour tout le monde.
Eh bien, bonjour à tous.
On est content de vous retrouver.
Alors, on est heureux de profiter de ce beau temps pour pouvoir partager avec vous ce cours qui aujourd'hui sera sur
la grâce.
On va l'appeler la puissance de la grâce et nos amis peuvent d'ailleurs le retrouver par écrit, Julia.
Eh bien, oui, ça se trouve dans la série de LDN numéro 3 et c'est le cours numéro 19. Vous pouvez le retrouver.
Tout à fait. Et mes amis, une définition de la grâce, ça on le sait plus ou moins tous, c'est que c'est le don gratuit. Maintenant, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que ce n'est pas seulement le don gratuit, c'est aussi le don du meilleur. La grâce, selon le concept biblique, c'est le don gratuit du meilleur. J'aime donner cette précision parce que pour certaines personnes, parfois, lorsque l'on parle de gratuité, ils imaginent que c'est gratuit parce que ça n'a pas beaucoup de valeur. Hein. Il y a des gens qui veulent toujours te donner gratuitement ce dont ils veulent se débarrasser. Mais là, c'est exactement tout le contraire. C'est parce que ça a trop de valeur que c'est obligé d'être gratuit parce qu'aucun de nous ne peut payer déjà pour le salut gratuit qui nous est offert en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le meilleur que Dieu a donné pour le salut de l'humanité, son meilleur. Et puis, les grâces que Dieu, les dons dont on veut nous communiquer tout au long de notre vie chrétienne, eh bien, ce sont des cadeaux qu'on ne peut mériter et pour lesquels on ne peut pas payer. C'est pourquoi il est question d'être sauvé par la foi sans les œuvres. Ça ne signifie pas que nous ne sommes pas appelés à produire des œuvres, parce que la foi vivante produit des œuvres, mais ça ne commence pas par les œuvres, ça commence par accepter de recevoir ce que Dieu nous donne gratuitement.
Alléluia, parce qu'aucun d'entre nous pourrait payer le prix d'obtenir la grâce. Et il y a des jours où on a senti, franchement, on se sent tellement faible qu'on ne peut pas mériter quoi que ce soit. Et c'est là où vraiment on peut crier à Dieu et dire « Grâce Seigneur pour cette journée, aide-moi de traverser ce que j'ai à vivre. Je sais que tu vas m'aider. »
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on veut aborder cet après-midi. C'est le fait que lorsque nous nous sentons faibles, nous sentons que nous ne méritons pas cette grâce. Or, c'est un non-sens parce que justement, la grâce, c'est le don immérité. Et le diable, lorsque nous passons par ces périodes où nous ne nous sentons pas à la hauteur, il vient souffler à nos oreilles, eh bien voilà, tu t'es privé de la grâce de Dieu. Donc, je le répète, c'est un non-sens parce que Dieu ne va pas nous priver de sa grâce au moment où nous en avons le plus besoin.
Ah, merci Seigneur.
Voyez-vous, il y a plusieurs manières par lesquelles nous pouvons accéder, si je peux dire, à la présence de Dieu. Dieu aime les efforts, Dieu aime ces temps de jeûne et de prière et souvent l'Esprit de Dieu nous dirige dans cette direction. Le Seigneur veut aussi que nous passions du temps dans la louange et ces temps de louange permettent à cette présence du Seigneur de devenir palpable. Donc tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne, le combat spirituel aussi. Il y a des moments où on se lève et on a mangé, si je peux dire, du lion de Juda. On est prêt, par la grâce de Dieu, déjà à livrer tous les combats spirituels possibles et imaginables. Et puis il y a ces autres jours où on est pas tant en forme que ça, Julia.
Hein?
Nous les avons connus dans notre vie, nous arrive de les connaître encore, et je crois que ceux qui nous écoutent, eh bien, les connaissent aussi régulièrement. Et parfois, justement, ils peuvent développer un complexe en ayant l'impression qu'ils sont les seuls à passer par ces périodes à travers lesquelles le diable, comme on le disait tout à l'heure, va leur souffler, eh bien, qu'ils ne sont plus dignes de la grâce de Dieu. Eh bien, ces autres fois, nous sommes appelés à nous approprier, si je peux dire, la grâce plus que de normal, en fait. C'est dans les moments où on est le moins en état de prouver quelque chose au Seigneur que nous avons le plus besoin de cette grâce. La Bible nous encourage à faire des efforts, et la grâce en effet est efficace pour celui qui s'efforce de plaire à Dieu. Maintenant, il y a des jours où il semble que nos efforts ne servent à rien. Tu sais, ces jours où on a l'impression même que ça va encore plus mal après avoir fait les efforts qu'avant. Hein? Eh bien, là, ô combien nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ô combien nous devons apprendre à ne pas nous priver de la grâce de Dieu et réaliser que la grâce est quelque chose qu'on doit s'approprier. Le problème est que beaucoup de gens attendent parfois que les choses se fassent toutes seules. Non, la parole de Dieu et les promesses qu'elle nous donne, on doit apprendre à se les approprier. Alors la grâce, ce n'est pas une excuse pour faire tout ce qu'on veut et puis Dieu passera par-dessus. Mais si nous sommes dans un bon état d'esprit, eh bien Dieu va nous donner sa grâce au moment où nous en avons le plus besoin. Il y a ce verset d'ailleurs qui dit, Julia, que Dieu fait grâce.
Mais il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux.
Il résiste donc, au contraire aux orgueilleux. Donc le humble, c'est celui qui est dans le bon état d'esprit, qui n'essaye pas de profiter de la grâce pour en faire une couverture, si je peux dire, pour pouvoir pécher. Mais c'est celui qui, sans sa misère, sans son besoin, et demande simplement à Dieu de l'aider là où il se trouve, quand il est dans le besoin. Et Dieu a l'intention de répondre à cette catégorie de chrétiens. Alors, il y a un personnage qu'on peut prendre comme exemple, justement, qui est le prophète Élie.
Ah oui.
Jacques nous dit au sujet d'Élie que tout prophète qu'il était, et c'est un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, c'était un homme,
humain. De la même nature que nous.
De la même nature que nous. C'est-à-dire qu'il était autant sujet à être sous l'onction de Dieu et à être utilisé puissamment par le Seigneur que parfois être un peu trop humain. Hein?
Il avait des jours avec et des jours sans. Il avait des jours qu'il avait vraiment. Il croyait en lui et dans la puissance que Dieu l'avait confiée. De pouvoir combattre même contre toutes les idoles de Baal. Ouais. Mais après, il y a d'autres moments, on le trouve dans le désert, mais complètement déprimé et à vouloir mourir même. Et Dieu, c'est vraiment pas sa grâce, parce qu'il aurait pu le réprimander, il aurait pu le punir, mais non, il lui a fait un gâteau, il lui a donné à boire. Et il lui dit, fortifie-toi, parce que le chemin va être long devant toi. Donc, c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Ma grâce, il va te couvrir.
Ouais. Mmh. Merveilleux exemple. Hein?
C'est vraiment.
Élie, après avoir tué des centaines de prophètes de Baal et d'Astarté, après avoir affronté ses ennemis dans des combats spirituels spectaculaires, bien voilà qu'il fuit devant une seule femme, Jézabel, et il se retourne dans le désert, comme tu le disais, en pleine dépression. Mmh. Et on aurait pu imaginer que, vis-à-vis de la fausse image qu'on a de Dieu parfois, que Dieu allait dire, eh bien ça y est, Élie, je te raye de la liste des hommes de Dieu, de mes serviteurs. Élie, tu me déçois. On imagine aussi que Dieu prend son téléphone et dit, on va décommander le char que j'avais prévu qui vienne chercher Élie.
Hein,
parce que vraiment, cet Élie-là, il n'est vraiment pas à la hauteur. Eh bien non. La Bible nous dit, tu l'as précisé tout à l'heure, qu'à un moment donné, dans le désert, Élie s'endort et quand il se réveille, il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Dieu lui avait préparé son breakfast. Grâce, Dieu lui fait un cadeau en lui faisant un gâteau. Le cadeau de la grâce. Dieu sait qu'Élie, dans cette situation, il n'est pas en état. Et c'est un peu comme les mamans, lorsqu'elles sont avec leurs petits, qui reviennent de l'école et il est fatigué, il pleure pour un rien. Ça ne sert à rien parfois de les raisonner, ce n'est pas le moment. Maman va leur donner un bon bain chaud, va leur préparer un bon goûter. Alléluia. Mm, mm, mm. Et nous avons tous besoin que les gens nous fassent grâce régulièrement. On a régulièrement besoin que notre femme nous fasse grâce, que notre mari nous fasse grâce, que nos parents nous fassent grâce, que nos enfants nous fassent grâce et que les frères et sœurs dans l'église nous fassent grâce dans ces moments où on n'est pas en état. Heureux sommes-nous si nous sommes entourés de gens qui ont cet état d'esprit. Une chose que je veux préciser au sujet d'Élie, c'est que lorsqu'il était dans le désert, là, en pleine dépression, eh bien, il n'était pas conscient qu'il était à la veille de faire une de ses plus grandes expériences spirituelles, être enlevé dans un tourbillon et un char de feu. Et c'est peut-être le cas de certaines personnes qui nous écoutent. Vous avez été tellement éprouvé que vous avez l'impression que les grandes expériences spirituelles, eh bien, c'est plus pour vous, mais vous êtes peut-être à la veille de vivre une de ses plus grandes expériences spirituelles à cause de la grâce de Dieu.
Il y a ce passage merveilleux que nous connaissons tous, qui est dans le psaume 23 et qui dit « Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront et tous les jours de notre vie. » Et c'est vrai qu'il y a ce passage aussi qui dit « Voilà, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. » Et on est certain que notre Seigneur, il accumule pas des choses contre nous. Mais chaque matin, sa bonté, sa grâce, il est là à notre disposition. Et donc, on peut avoir cette assurance qu'on est aimé de Dieu. Et ça nous aide beaucoup dans les journées difficiles, qu'on doit affronter des épreuves ou peut-être de prendre des décisions vraiment importantes. On peut se dire, ouais, il a la grâce de l'Éternel qui est sur moi. Et donc, je vais réussir dans tout ce que je vais entreprendre aujourd'hui. Je n'ai pas peur d'aller affronter la journée. Et ça, c'est vraiment important.
Ouais, c'est important ce que tu as dit. Il faut à tout prix qu'on réalise que Dieu n'est pas contre nous.
C'est ça.
Il est pour nous. Dieu est pour vous.
Ouais. Psalm 26, toi aussi, il nous dit « Car ta grâce est devant mes yeux ». Alors, il ne faut pas qu'on se détourne le regard de cette grâce. Il faut qu'on la garde toujours devant nous comme un phare qui nous guide en sachant que notre chemin il est éclairé parce que Christ nous a affranchis et sa grâce nous accompagne en toutes choses. Alors, ce passage dit « Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans la vérité ». Si on sait qu'on est couvert par la grâce de Dieu, on a cette assurance qu'on est promu par lui et on peut accomplir des choses dans la vérité de Dieu parce qu'il nous a remplis de son esprit et il nous fait confiance. Vous savez que Dieu, il vous fait confiance et il a confiance en vous et c'est pourquoi qu'il vous couvre, il vous couvre de sa grâce.
Et donc le contraire de la grâce, c'est l'accusation. Notre message, il a pour but de vous faire vraiment réaliser que mais la grâce de Dieu, elle est là, elle est disponible pour vous. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu n'est pas là pour vous condamner, il est là pour vous faire partager sa grâce. Avec le retour de Babylone, à l'époque d'Esdras et de Néhémie, à l'époque de la reconstruction du temple que les Hébreux avaient entrepris, eh bien, les ennemis de Juda ont fait toutes sortes d'efforts pour leur faire cesser leur reconstruction. Mais voyant au bout d'un moment que leurs efforts ne portaient pas de fruits, ils ont décidé d'écrire une lettre spéciale au roi de l'époque, Astaxerxès. C'est pas évident à prononcer, n'est-ce pas? Mais c'était une lettre d'accusation. Et lorsque le roi a reçu cette lettre, il a fait cesser les travaux de la reconstruction du temple et de la ville de Jérusalem. Et dans Zacharie 3.1, il nous est montré en fait ce qui se passait en réalité dans le monde spirituel, où Zacharie voit Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Parfois, nous nous retrouvons accusés dans le naturel et nous ne réalisons pas que c'est la conséquence d'une accusation qui a eu lieu d'abord ou en même temps dans le monde spirituel. Et nous ne réalisons pas que les problèmes, nous devons les régler dans le monde spirituel avant de les régler justement, ou avant de les retrouver réglés dans le monde matériel. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et vous savez comment les travaux ont repris? Quand on étudie le sujet, on se rend compte que ces travaux-là, ils ont cessé pendant 15 ans. La volonté de Dieu, si je peux dire, a été coincée, a été stoppée pendant 15 ans. Et là, on revient à certains concepts évangéliques où Dieu ferait tout ce qu'il veut comme il veut. Non, la volonté de Dieu peut être stoppée, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un combat spirituel. S'il y a un Dieu, il y a aussi un diable. Et il y a des moments où le diable arrive à nous freiner, voire nous stopper. et nous devons utiliser les bonnes armes contre lui pour pouvoir défaire ses plans.
Alors, j'ai fait un peu l'illusion aussi de certains moments pendant cette épreuve de Covid-19 où on était stoppé dans nos projets.
Absolument, tout à fait.
Et que d'un coup, on se trouve suspendu dans le temps. Et il y a beaucoup de personnes que je connais qui remettent en question les choses qu'ils avaient commencé de faire ou des projets qui étaient vraiment...
Parce qu'elles ont été stoppées.
Parce qu'ils étaient stoppés, ils se disaient « Ah, mais peut-être alors ce n'était pas de Dieu. » Peut-être. Quand l'ennemi vient et pour vous freiner, quand il va mettre un gros obstacle sur votre chemin, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la vérité et ça ne veut pas dire non plus que vous n'êtes pas en train de faire les bonnes choses. Mais il faut parfois se dire « Ok, je prends un moment de pause. » J'ai pas le choix. Il y a un orage qui passe. J'attends que l'orage passe et ensuite je remets en marche. Et c'est important de garder vraiment la cape quand Dieu il nous donne une parole ou une vision ou une mission ou quelque chose d'important à faire. Comme la reconstruction du temple, il y avait beaucoup de personnes à cette époque-là qui disaient, voilà, les Hébreux, ils étaient moqués même parce que c'est pas la volonté de Dieu que vous reconstruisez le temple et tout.
On s'est trompé, on n'aurait pas dû faire ça.
Voilà, et pourtant, c'était bien la volonté de Dieu. Donc, accrochez-vous. Parfois, il faut attendre un peu que des choses passent, mais ne vous détournez pas de ce que Dieu vous avait montré et restez fidèles dans les promesses de Dieu. Parce que lui, il est fidèle. Alors, j'aime bien parce que sur les notes de mon mari, c'est marqué « Grâce !» Comme dans le chant qu'on chante « Merveilleuse grâce ». Il y a des jours où il faut vraiment crier « Grâce ».
Et c'est la dernière partie de l'histoire que nous avons commencé à raconter vis-à-vis de la reconstruction du temple à l'époque d'Esdras et de Néhémie. Quel a été le déclencheur, je pourrais dire l'arme que Dieu a donnée au peuple pour briser le pouvoir de Satan, le pouvoir de l'accusation. Et souvent, lorsque vos projets sont stoppés dans ce monde matériel, eh bien, c'est parce qu'il y a une accusation de la part du monde des ténèbres, des hommes autour de vous, et cette accusation a un pouvoir, n'est-ce pas? Mais pour briser ce pouvoir, au lieu de se justifier, tu sais, parfois lorsque nous sommes accusés, nous avons ce sentiment qu'il faut se justifier et auprès de tous les gens qui nous accusent, et parfois on peut perdre des années à essayer de se justifier.
Mais, donc en fait, il faut analyser d'où viennent les critiques. Il y a parfois des personnes qui donnent une critique constructive, c'est pour nous aider d'y aller en avant. Mais quand c'est l'accusateur qui vient nous critiquer, il ne faut surtout pas le prendre en compte.
Oui, tu sais, il faut discerner entre les critiques constructives, comme tu dis, qui n'ont pas le goût de l'accusation. Et puis les critiques qui sont là simplement pour nous démonter le moral. Et là, donc, c'était le cas pour les Hébreux à l'époque. Et l'arme que Dieu leur a donnée pour vaincre, eh bien, ce n'était pas de se justifier, c'était la grâce. C'est pourquoi on trouve dans ce passage, Zacharie chapitre 4, versets 6 et 7, il est dit « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, n'est-ce pas un des responsables principaux de l'époque, ce n'est ni par la puissance ni par la force, donc c'est pas par tout ce que tu peux faire pour te justifier, ce que tu peux faire pour prouver quelque chose, par tes efforts personnels, mais c'est par l'Esprit du Seigneur de l'Éternel.
Oh, j'aime trop ça.
Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Il est en train de prophétiser. Tu seras aplani. Dieu veut aplanir vos montagnes. Et il ne le fera pas par vos propres efforts. La Bible dit, il posera la pierre principale, Zorobabel, au milieu des acclamations. Quelles acclamations?
Grâce pour elle. Amen.
Cette expression elle est traduite différemment selon les traductions, mais plusieurs la rendent par grâce. Et donc, si la reprise de la construction du temple allait se faire au milieu de la proclamation de la grâce de Dieu, cela veut dire que les Hébreux sont sortis de cette situation, non par leurs efforts, je le répète, ni leur grande spiritualité, mais en devenant réceptifs à la grâce de Dieu et en proclamant cette grâce. Et là, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, en s'appropriant la grâce. Lorsque nous proclamons avec nos bouches certaines vérités bibliques, certaines promesses de la Bible, au lieu de râler, vient de confesser ce qui ne va pas, les travaux se sont arrêtés, amen. Eh bien, nous nous approprions cette grâce et nous la rendons amen. Efficace. Amen, amen. Les anges se mettent en route dans le monde spirituel pour que cette grâce nous touche et rien de plus puissant, alléluia, que la grâce de Dieu. Ce n'est pas faible la grâce. Et cette grâce trouve son origine dans l'amour que Dieu a pour son peuple. Mmh. Wow. Les démons ont été vaincus dans cette situation particulière par la proclamation de la grâce de Dieu. Grâce, grâce. Aujourd'hui, grâce. Nous proclamons sur nos vies la grâce de Dieu. Alléluia. Grâce.
Grâce, Seigneur.
Saisissez-la.
Merveilleuse grâce.
Brisez le pouvoir de l'accusation sur vos vies.
Amen. Sur votre famille, sur vos foyers. Alléluia. Que la grâce coule de ta personne.
Amen.
Amen.
Eh bien, il y a dans la nature humaine, à cause de la chair, une tendance à l'accusation. Vous avez remarqué, on a tous tendance à accuser son conjoint, accuser ses parents, accuser ses enfants, accuser les frères et sœurs dans l'église, accuser Dieu. Si bien que souvent nous cherchons à aider les gens même en les accusant. Parfois on essaye d'aider une personne en la faisant se sentir mal. Parce qu'on a l'impression que plus elle va se sentir mal, plus elle va désirer changer.
Ou les enfants, on croit qu'ils vont finir par comprendre. Il faut qu'on les accuse tout le temps.
Et ça produit le résultat inverse. Mmh. D'ailleurs, pour la raison bien précise, c'est que l'accusateur, c'est pas le Saint-Esprit.
Non.
L'accusateur, c'est le diable. Mmh. Et nous devons bien discerner la différence entre une conviction éventuellement de péché que nous donne le Saint-Esprit, et l'accusation. Le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose et nous dit, mon enfant, je voudrais que tu changes ça, et je vais t'aider à le changer.
Oui.
Mais le diable, là, il est là simplement pour nous oppresser, et pour nous faire sentir petits et minables, et par ses sentiments, nous décourager à la seule idée de vouloir changer. On est tous passés par ces périodes où quelqu'un voulait nous forcer à changer en nous faisant sentir mal, où on a tous fait ça à quelqu'un dans notre vie. Et ça ne marche pas parce que ce sont les méthodes du diable. Et on ne peut pas servir Dieu, comme je le dis souvent, avec les affaires du diable, parce qu'alors, il nous fait payer la location. Et c'est exactement quelque chose qui nous revient à un moment donné dans la figure. Un jour, Jésus rencontre une femme samaritaine.
Eh oui.
Et puis, à l'époque, les Juifs, ils ne parlaient pas aux Samaritains. Donc déjà, lui tape la conversation.
Oui, il n'avait pas honte.
Il n'avait pas honte. Et ah. En plus, à l'époque, ça ne se faisait pas d'aborder une femme comme cela. Mm-hmm. Et si bien que la Bible nous précise que ses disciples étaient étonnés de le voir parler à une femme. Donc on se rend compte que le Seigneur, il n'en a rien à faire, permettez-moi l'expression, de nos traditions. Lorsqu'il veut nous toucher, il est prêt à passer au-delà de toutes les traditions humaines qui ne servent à rien et qui nous empêchent de toucher le bord de son vêtement, n'est-ce pas? Et il lui donne une parole de connaissance parce qu'il connaît la vie de cette femme. Et il s'avère que cette femme, elle a divorcé 5 fois, et même le gars avec qui elle vit maintenant, eh bien, elle vit à la colle.
C'était pas son mari, oui.
Vous parlez d'une personne dysfonctionnelle, hein? Mais ce que je trouve formidable, contrairement à certains concepts qu'on a parfois dans certains milieux évangéliques, c'est que le Seigneur, il ne lui fait pas un cours biblique sur le divorce.
Non.
Hein? Il ne lui fait pas la morale. Il voit déjà plus loin. Il la propulse par ses paroles à l'avance dans ce qu'elle peut devenir. En d'autres termes, il prophétise un avenir pour cette femme. Mmh. Beaucoup de chrétiens, parfois, lorsqu'ils ont affaire à des divorcés, au lieu de leur prophétiser un avenir, ils leur prophétisent plutôt qu'ils ne peuvent pas servir Dieu et ils deviennent des chrétiens de seconde catégorie. Quelque chose qui choque personnellement, profondément, parce que je pars du principe que Dieu est un Dieu bon, il est un Dieu juste et que le message de l'Évangile et là pour toujours nous ouvrir une fenêtre pour que nous ayons un avenir, une espérance et non pas nous ramener en arrière vers nos problèmes et nos péchés en nous disant justement que maintenant ceux-ci vont nous lier à vie pour nous empêcher d'être heureux.
Le même jour qu'elle a rencontré le Seigneur, elle s'est convertie, elle a cru, elle est devenue évangéliste tout de suite. Ça, c'est pas mal, ça, c'est assez rapide.
Jésus en fait un instrument de réveil pour toute une ville.
Il n'a pas attendu qu'elle devienne totalement sanctifiée, qu'elle fait 10 ans d'école publique. Elle a dit, va parler.
C'est il n'a même pas attendu qu'elle mette sa vie en règle, ce qu'elle a dû faire, n'est-ce pas?
Oui, certainement.
Parce qu'il voyait plus loin. Et d'ailleurs, cette femme, c'est facile de la juger, parce qu'elle a vécu ses divorces. Mais peut-être qu'elle a vécu 5 fois d'avoir le cœur brisé, finalement. On ne connaît pas les détails de sa vie. Il faut faire attention avec ce jugement que nous avons parfois sur les gens, où au lieu de leur faire grâce de la part de Dieu, nous leur apportons la condamnation. Et nous l'avons vu, l'origine de cette condamnation, elle ne vient pas du Saint-Esprit, elle vient de l'adversaire.
Il lui a fait grâce.
Faisons grâce à ceux qui nous entourent. Soyons des instruments entre les mains de Dieu pour qu'ils touchent du doigt la grâce de Dieu, quelle que soit la situation, quelles que soient les souffrances qu'ils ont vécues, quels que soient les échecs qu'ils ont eus dans leur vie. Ouais, faisons leur grâce, car c'est là notre vocation, être un instrument de la grâce de Dieu dans la vie des autres. Dans un des points principaux que nous soulevons dans ce cours, c'est oui, certainement que Dieu veut nous voir changer, il veut nous voir évoluer, mais il veut que ce travail se fasse à sa manière et par son Saint-Esprit, et non pas par les méthodes humaines de l'accusation, parce que l'accusation, nous l'avons vu, vient de l'adversaire. Dieu veut nous toucher par la puissance de son amour, par la manifestation de sa grâce. Et il y a un verset formidable qui se trouve dans les Romains qui nous dit de considérer que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. J'ai réfléchi là-dessus. Et je me suis dit qu'en effet, l'option numéro 1 du Seigneur, c'est pas qu'on se retrouve à se repentir et donc à changer parce qu'on en prend plein la figure. Nous avons de merveilleux témoignages, en effet, dans nos milieux évangéliques, d'hommes et de femmes qui avaient tout perdu, qui étaient au ras des pâquerettes et que Dieu a relevé. C'est formidable, ok? Mais s'ils avaient pu éviter de passer par là, c'était encore mieux. On donne parfois l'impression que pour venir à Christ, il faut à tout prix passer par ces moments où on perd tout, on en bave. Mais la Bible nous dit justement que si nous ne savons pas servir Dieu du sein de l'abondance, nous nous retrouverons à le servir du sein de l'épreuve.
D'une façon difficile.
On y a tout perdu. Ça ne veut pas dire que Dieu nous fait tout perdre, mais ça veut dire qu'on a ouvert des portes dans notre vie pour que le diable nous vole tout. Et je crois que c'est important de réaliser que l'option numéro 1 du Père Céleste, c'est qu'on le trouve du milieu de l'abondance, je dirais même du milieu de la bénédiction. C'est pourquoi au lieu de prier pour que les gens perdent tout, soient mis à genoux, etc., croyez-moi, il y a suffisamment d'occasions dans ce monde pour être mis à genoux par la vie, sans qu'on prie pour en rajouter. Prions pour que Dieu bénisse tellement ceux qui nous entourent, nos enfants, peut-être notre conjoint qui ne connaît pas encore le Seigneur, nos amis, suite à nos prières, au point qu'ils en arrivent à un moment donné de dire « mais c'est pas normal ». Ce ne peut être que la grâce de Dieu et que cette grâce les pousse à la repentance. Alors peut-être que vous allez me dire, est-ce que c'est bien biblique cette histoire? Eh bien, on a l'exemple formidable qui image cela de Pierre. Lorsque Pierre se trouve dans la barque avec Jésus, n'est-ce pas? Il a passé toute une nuit à pêcher, il est revenu bredouille. Et Jésus arrive et lui dit, eh bien, ramène la barque au milieu du lac et puis il se produit la pêche miraculeuse. Et lorsque Pierre voit cela, eh bien, qu'est-ce qu'il se dit? Il ne pense pas, tiens, bon plan, je vais aller vendre mes poissons, Jésus, donne-moi ton numéro de téléphone, je te rappelle quand j'ai besoin de toi, etc. La Bible nous dit qu'il est convaincu de péché. Il tombe à genoux, il réalise que celui qui est dans la barque est le Messie tant attendu. Il réalise sa misère, non pas parce que Jésus a cherché à le rabaisser, n'est-ce pas? Où Jésus a cherché à le manipuler, mais parce que Jésus l'a aimé et a manifesté cet amour en lui manifestant sa grâce et sa bonté. Et c'est là qu'on voit la confirmation de ce verset où il nous est dit de juger que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Mmh. Pierre dans la barque est poussé à la repentance par la bonté de Dieu.
Et c'est exactement ça que nous avons fait quand on a prié pour nos enfants. On ne prie pas, on espère qu'ils vont avoir des temps difficiles et qu'ils seront tellement à genoux qu'ils vont crier à Dieu, mais plutôt qu'ils soient vraiment confondus en voyant la grâce de Dieu dans leur vie manifestée.
Ils voient que les prières de papa et maman marchent, alléluia.
C'est ça, et de prier, Seigneur, je prie que ça marche tellement bien pour lui qu'il ne peut que reconnaître que c'est l'intervention de la grâce de Dieu qui lui a permis de réussir ou qui lui a permis d'obtenir ce qu'il avait besoin, etc. Et on a prié selon ces règles-là, on a changé notre façon de prier pour nos enfants et on voit la gloire de Dieu, on voit la gloire de Dieu.
Et lorsque la bonté de Dieu est répandue sans demi-mesure, à un moment donné, les gens ne peuvent que constater que ça ne peut pas être un hasard.
Mmh, hein? C'est ça.
Et ce sont les constatations que nos enfants commencent, qui ne marchent pas encore avec le Seigneur, commencent à faire de plus en plus. Et c'est un truc que nous vous donnons. Priez pour que la bénédiction de Dieu les mette à genoux, que la bonté de Dieu les mette à genoux. Alléluia.
Amen.
Et qu'au contraire, qu'ils soient préservés des pièges de ce monde et du pouvoir de l'accusation qui cherche à les mettre à genoux, justement, mais d'une autre façon, pour les briser.
Faites grâce à ce serviteur de Dieu. Faites grâce à cette église ou ce groupe de personnes qui travaillent tellement dur et qu'ils persévèrent, ils savent ce que c'est la persévérance.
Même si vous n'êtes pas d'accord, surtout avec eux.
Non, mais que vraiment, que leur cœur change par la grâce de Dieu. Alléluia.
Faites grâce à ce conjoint. Faites grâce à ces enfants qui ont peut-être du mal à être à la hauteur de vos attentes. Faites grâce aujourd'hui, alléluia, à la suite de ce cours. Soyez un instrument de la grâce de Dieu pour ceux que vous rencontrez. Et maintenant, nous voulons terminer ce cours en invoquant la puissance de la grâce sur vos vies. Soyez envahis par la grâce de Dieu. Le Seigneur va confirmer sa parole. Le thème de ce cours, c'était la grâce. Dieu n'est pas là pour confirmer le grand ministère de Claude et Julia Palayan, mais pour confirmer sa parole. Que la puissance de cette parole soit agissante dans votre vie, que cette grâce qui coule du trône de la grâce, justement, coule dans vos vies à partir de vos vies dans la vie des autres. Qu'il en soit ainsi, que vous envoyez les effets à la suite de cette parole et de ce cours que vous avez suivi. Merci Père, au nom de Jésus. Merci Père. Grâce, comme les Hébreux à l'époque de Néhémie, de Édras. Nous invoquons la grâce de Dieu sur ceux qui nous écoutent et sur leur famille, au nom de Jésus.
Et merci parce que nous pouvons approcher au trône de la grâce avec confiance. Alléluia. Et Seigneur, je prie simplement que cette grâce soit visible dans nos vies et dans toutes les personnes qui nous entourent, Seigneur. On prie grâce sur nos enfants, sur
grâce.
Nos parents,
grâce.
Sur nos collègues de travail,
grâce.
Sur nos boss,
grâce.
Seigneur, sur nos gouvernements,
grâce.
Sur nos pays.
Grâce. Nous proclamons la grâce de Dieu sur nos bien-aimés et sur ceux qui écoutent cette vidéo. Soyez bénis.
Soyez bénis.
Ha ha ha.